Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en cette fin d'après-midi, en ce début de semaine. Contente d'être avec vous tous. L'OM, enfin vainqueur du Classico hexagonal. Les Marseillais ont battu le PSG sur la pelouse du Parc des Princes au bout d'une rencontre extrêmement tendue, électrique, qui a terminé par une pluie de cartons rouges et de cartons jaunes, malheureusement. Ces incidents ont-ils sali un face-à-face Paris-Marseille trop rugueux? Les conséquences vont au-delà des 90 minutes très disputées, avec suspense, mais pas forcément du très beau football, et surtout des conséquences pour les joueurs. Nous en parlerons. Vous avez un petit sourire, Avi Bey, bonjour.
Oui, bonjour Annie, bonjour à tous, enfin, ça faisait longtemps.
Hein, effectivement, on va y venir aux statistiques. La fin justement d'une invincibilité de 9 années pour les Parisiens qui ne perdaient pas depuis 2011. Le PSG enchaîne les défaites. Faut-il s'inquiéter pour l'équipe des stars parisiennes, pourtant renforcée par l'excellent latéral italien Florenzi? En Première Ligue, spectacle garanti avec Klopp et Bielsa. Le match entre les champions d'Angleterre et les promus de Leeds a tourné à l'avantage des Reds. Mais quelle folie sur le terrain. Waouh, a dit Klopp à la fin en clamant son admiration aux adversaires. Bonjour Bruno Constant.
Bonjour Annie.
C'est comme ça qu'il a dit?
Oui, mais il n'était pas le seul. Hein. Je crois que tout le monde l'a fait.
C'était assez spectaculaire comme match et assez enthousiasmant. Ça contrebalancera un peu notre émission aujourd'hui. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie Gasnier.
Tout va bien?
Et bonjour à tous, tout va bien. Mieux que pour l'OGC Nice, dont on ne parlera pas.
Non, pas aujourd'hui, on en parlera demain, quand on aura un peu plus de temps. Sarah Loubacouche m'a aidé à préparer l'émission, Laurent Salerno est à la réalisation. En Radio Foot, c'est parti.
Occasion là, avec ce ballon de Payet, il y a Thauvin qui est seul, et but! Le but de Florian Thauvin! Il est seul, et il va marquer ce but! Florian Thauvin ouvre le score pour l'Olympique de Marseille, ici au Parc des Princes.
Mais monsieur Brisa, ça va mal se terminer
parce que Paredes à nouveau tape.
Oh là,
même s'il y a eu une réponse et une accentuation évidente de la réaction du joueur marseillais qui a été frappé. Voilà, et là ça y va avec les pieds.
Voilà, c'est bref. Catastrophe là, ce qui se passe.
Triste fin de partie hier soir au Parc des Princes dans le temps additionnel alors que la victoire échappait aux Parisiens sur leur pelouse et face à leurs quelques supporters. La rencontre a viré à la bagarre, pas vraiment générale, mais entre de nombreux joueurs. Évidemment, un très mauvais exemple à suivre. Évidemment, une très mauvaise réaction sur le terrain, que l'on perde ou que l'on gagne. Bref, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire dans un match professionnel comme dans un match amateur. Et n'oubliez jamais que le football est un jeu. Alors le calme, à peine revenu après les cartons brandis par l'arbitre, 5 rouges visant 3 Parisiens et 2 Marseillais qui s'ajoutaient aux jaunes qui ont jalonné la soirée, on a eu un record de cartons, 17 en un seul match. Hugo Moissonnier, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Hugo Moissonnier, vous étiez en tribune hier soir, vous étiez l'un des privilégiés dans les rangs de la presse hier soir au Parc des Princes. Est-ce que vous l'avez vu arriver de loin ce bouquet final?
Oui, on l'a vu arriver d'assez loin, même du début de la rencontre, pour être honnête. On pourrait même remonter à avant le coup d'envoi finalement, parce que le ton était monté à la fois via les joueurs, Dimitri Payet, son chambrage après la défaite en finale de la Ligue des Champions, le joueur marseillais auquel avaient répondu les supporters parisiens, les ultras, les supporters les plus fervents, avec des banderoles qui avaient été déployées dans quelques endroits de la capitale française, et notamment une banderole à l'extérieur du Parc des Princes qui était directement adressée à Dimitri Payet. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y avait sur cette banderole. C'est assez agressif, pour
assez
ne pas
cru,
dire outrancier,
oui.
Et même sexiste et injurieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tension, elle était déjà présente dans l'atmosphère qui entourait cette rencontre. Et sur le terrain, elle s'est rapidement confirmée. La faute aux 22 acteurs qui étaient présents sur la pelouse du Parc des Princes. On a 4 cartons jaunes, 2 de chaque côté, sortis après à peine 15 minutes de jeu, notamment un pour Neymar et Payet qui le prennent en même temps, les deux stars, et qui étaient un petit peu les deux cibles hein, de chaque camp. Payet, on a dit pourquoi, puis Neymar se joue en provocation, et Neymar qui a participé à la nervosité qui était vraiment palpable tout au long de la rencontre. Et puis derrière, vous l'avez dit, cette avalanche de cartons qui a mené à ce bouquet final assez triste finalement, ce spectacle assez triste d'une bagarre générale, Benedetto Paredes, les deux Argentins, ils sont expulsés, puis derrière il y a un combat de kung-fu entre Kurzawa et Amavi, voilà les deux arrière-gauche, excusez-moi. Alors là on a un petit combat de kung-fu, un rouge chacun, et puis derrière Neymar qui prend un rouge direct, il avait déjà pris un jaune, je vous l'avais dit, mais là il prend un rouge direct pour un petit coup sur Alvaro González, un autre duel, et là qui a pris une tournure un peu polémique, et même très polémique, puisque après le coup de sifflet final, Neymar a même accusé Alvaro González d'avoir proféré des insultes racistes.
Ouais. Habibé, vous qui en avez disputé des classiques, est-ce que c'est toujours comme ça, très électrique, très tendu, finalement, le contexte peut conduire à ces dérapages?
Oui, à mon époque, ça l'était aussi. Dans la préparation du match, c'était encore plus important parce qu'il y avait moins d'écart entre les deux équipes. Sur mon époque, par exemple, on était très souvent favoris, mais Paris était très très proche de l'Olympique de Marseille. Ça donnait forcément des duels engagés, mais on aime l'état d'esprit. Lorsque je vois le match, moi, débuter, je vois cette faute de Neymar sur Dimitri Payet, je me dis c'est une façon de lui faire payer tout ce qui s'est passé. Jusque-là, je m'affole pas, mais par contre, je suis un peu comme Hugo. Je me dis, ce match-là, s'il finit à 11 contre 11, vu ce qui s'est passé, vu le contexte, on serait assez étonné.
Et vu des antécédents, parce que ouais.
Après,
Neymar, il n'en a pas fait tant.
Après, encore une fois, je pense que le contexte du match ne sert pas les Parisiens. Il y a de l'agacement en ce moment du côté du PSG. C'est une équipe, la Ligue des Champions nous a un peu endormis, mais c'est une équipe depuis qu'elle a été créée qui n'aiment pas être frustrés. Ce sont des joueurs qui sont habitués à tout gagner, qui sont jamais bousculés, et là ils l'ont été.
Avec de la facilité.
Et du coup, ils n'ont pas su gérer leurs émotions. Mais c'est le cas depuis de très nombreuses années au sein du Paris Saint-Germain. C'est qu'on s'était dit finale de Ligue des Champions, ça y est, tout va bien. Non, en fait, cette équipe, elle est toujours dans la même configuration. On a toujours des joueurs à qui il faut pas dire quoi que ce soit. Après, je cautionne pas ce qui s'est dit, et j'espère que, comme l'a dit Villas-Boas, Ce qui a été dit n'est pas avéré, parce que ça serait très très grave et il faudrait de grosses sanctions. Mais en l'occurrence, je suis un peu comme Hugo. On a tous vu venir le pugilat de fin. Certains joueurs, moi je parle de Paredes aujourd'hui, si je suis le Paris Saint-Germain, je rentre dans le vestiaire, la première chose que je dis, Paredes, Kurzawa, vous serez sanctionné. C'est aussi simple que ça. Pour l'image du football et pour l'image du PSG, ce que fait Paredes, première seconde, il rentre, premier contact sur Payet, il fait un attentat, il doit presque déjà prendre rouge. C'est-à-dire que la façon dont il vient, c'est simple, il veut faire mal et il aurait déjà pu prendre rouge. Et puis ensuite, c'est un enchaînement de petites choses qui font que ce match n'est pas une belle vitrine pour la Ligue 1.
Patrick Juillard, est-ce qu'on avait des joueurs trop à cran finalement au fil des minutes ?
Je pense pas qu'il y ait ça. Je pense que le terme de frustration qu'Habib a employé est très juste, parce qu'il y a la frustration, effectivement, on le dit, c'est récurrent au PSG, quand le match ne tourne pas dans le sens escompté, l'équipe a parfois tendance à perdre son football.
On se souvient même la finale perdue contre Rennes,
voilà,
finale de la Coupe de France par exemple, ils étaient très énervés.
C'est
le
court-circuit, c'est-à-dire l'équipe perd son football, perd le fil, alors que pas, là la situation, être mené 1-0 à la mi-temps, c'est pas irrémédiable.
Pas
quand on est le PSG,
t'as vu aucun leader hier pour calmer
normalement c'est une situation qui peut se remonter. On n'a pas vu l'équipe, à part une quinzaine de minutes en deuxième mi-temps, reprendre le fil. On ne l'a pas vu. Et puis, il y a une frustration, je pense, des leaders techniques de l'équipe, dont Neymar et Di Maria, qui ont joué en étant sans doute un peu court physiquement.
Ça, on y viendra.
Et qui donc ne voyaient pas leurs efforts suivis d'effets sur le terrain. Et ils ont un peu dégoupillé pour cette raison-là. Après, je finis sur Paredes. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Habib. Il est évident que c'est un joueur qui est un joueur très sanguin, très chaud. Peut-être que sur un match comme ça, où il y a de la tension dans l'avant-match, ces joueurs-là, il vaut mieux les mettre au début, parce qu'on sait qu'il y a une petite marge de tolérance arbitrale sur un début de match qu'il n'y a plus après.
Surtout, Bruno Constant, quand on entend Patrick parle de Paredes qui a le sang chaud, et Tuchel les excuse presque en disant « Ah ben, on a beaucoup de Sud-Américains ». Alors, c'est vrai qu'il y en avait pas mal sur la pelouse, même des Espagnols, on peut ajouter.
Des deux côtés.
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce résultat.
Non mais Tourelle dans sa conférence de presse, il est totalement hallucinant ces derniers temps, c'est quand même assez incroyable. J'ai l'impression qu'il est dans une pièce fermée sans fenêtre,
déconnecté,
et qu'il a pas vu le match et qu'il a pas vu les événements. Mais bon, mais je rejoins Habib sur le
ras du terrain.
Pourtant, mais bon. Là où je rejoins Habib, c'est que on a l'impression que cette équipe qui était finaliste de Ligue des Champions il y a pas très longtemps n'a pas grandi avec cette finale de Ligue des Champions. Qu'elle n'a pas appris de ses erreurs, qu'elle n'a pas appris de ses frustrations, et que le moindre petit caillou dans la chaussure, ça se transforme en pugilat. Et c'est à la fois une honte pour le football français et le spectacle qu'ont donné les Parisiens, mais pas que des joueurs, pas que sur le terrain. La conférence de presse de Tourelle après le match est hallucinante. L'intervention médiatique de Leonardo après le match est totalement scandaleuse, de remettre
tout
en cause la position de l'arbitre sur ce match-là, sa désignation. C'est juste incroyable. Et à un moment donné, quand on atteint une finale de Ligue des Champions, donc on se veut être un grand club et qu'on se veut grandir, continuer à grandir, et qu'on a un mois après ce genre de comportement, c'est juste hallucinant. Aujourd'hui en Europe, on ne parle que de l'attitude des joueurs du PSG dans ce match.
Alors, pas seulement en Europe, parce que là, on a sorti un peu la presse sud-américaine, vous connaissez notre intérêt avec Alejandro Valente. Le journal Extra de Rio parle de Neymar qui accuse de racisme et qui est expulsé. On a un journal mexicain, alors ça c'est amusant, ça doit être la connexion avec Gignac, qui parle aussi des 5 expulsions. On a Mundo Deportivo, évidemment, il s'intéresse à Neymar aussi, bataille champêtre. je résume, mais c'est vrai que la Trompa d'Olimpia aussi, pour ce qui est de Clarín, qui est un journal argentin. Bref, en plus, Habib, on a eu même entre entraîneurs une prise de bec. C'est souvent qu'à la fin d'un classico, alors on se souvient, et c'est un mauvais souvenir pour beaucoup de gens, de Mourinho et
Wenger.
C'était en Espagne.
Avec Villanova, l'adjoint de Pep Guardiola. Oui, donc,
on a vu aussi Mourinho et Wenger au Stamford Bridge. Ça arrive, hein, ce genre d'accrochage.
Ça arrive, mais c'est ce qui montre un petit peu la nervosité ambiante de ce Paris Saint-Germain en ce moment. Ce qui est assez étrange, c'est qu'on se dit que le PSG, logiquement, doit finir avec 20 points d'avance, que le début du championnat du PSG, bon bah il est ce qu'il est. Je sais pas pourquoi aujourd'hui il y a cette tension au sein du PSG. Je l'explique pas. Clairement, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Vous devez sortir de là avec beaucoup de sérénité.
C'est ça qui est surprenant.
Vous avez le temps de préparer votre mercato parce que vous avez jusqu'au mois d'octobre et vous avez l'impression que tout le monde est électrisé dans ce club là.
Ouais.
À cran. Je comprends pas l'urgence de faire jouer Di Maria et Neymar. C'est-à-dire que oui, vous êtes sur un classico, mais l'urgence de faire démarrer Di Maria et Neymar, on avait l'impression que c'était ah bah sans eux, on peut absolument pas gagner.
À Lens, c'est ce qui s'était passé.
Je trouve qu'il y a toutes ces choses qui font que Tourelle, par exemple, moi hier, ce qui me dérange chez Tourelle, et j'observe beaucoup les entraîneurs parce que c'est le métier que je veux faire, et je me dis, il voit que son groupe, et tout le monde le voit, il voit que son groupe est en train de péter un plomb. C'est-à-dire qu'il voit beaucoup de signaux.
Oui.
Il n'y en a pas qu'un.
On peut se demander pourquoi il ne sort pas Neymar, par exemple, parce qu'on sait comment Neymar
est. C'est-à-dire qu'il y a un moment des temps morts dans un match. Des blessures, des joueurs qui sont au sol, les kinés qui vont rentrer. Vous appelez 5-6 joueurs de votre équipe, des leaders désignés, et vous leur dites, écoutez, arrêtez-vous, calmez-vous. Et en fait, je l'ai vu sur sa glacière, faire des gestes, calmez-vous, mais. Moi, à un moment donné, il faut que tu contrôles ton groupe. Contrôler ton groupe, ok, t'as ton entorse de la cheville, en tout cas ton pied cassé, je comprends. Mais il faut que tu sois, à un moment donné,
connecté avec
ton équipe de façon à sentir si elle est capable de découpiller. Et en fait, dans cette équipe, aujourd'hui, on a parlé de Thiago Silva, mais par exemple, Thiago Silva était éventuellement ce leader dans ce côté un peu calme, il pouvait être ce leader. Hier, je regarde la pelouse, il n'y en a aucun qui dit à Neymar calme-toi, il n'y en a aucun qui va dire à Di Maria arrête-toi, tu viens de cracher, déjà t'es passé à deux doigts. Non, ça continue. Et puis il y en a un qui chauffe l'autre, et puis en fin de compte, ça dégoupille.
Mais sur Tourelle, c'est quand même quelque chose qu'on a déjà vu, c'est qu'il y a un manque de maîtrise sur le bord de la touche des événements. Et généralement, c'est plutôt des événements sportifs où il avait du mal à enrayer une partie qui allait pas dans le sens du PSG. Là, c'est la même chose
On va y venir à Tourelle, mais je voudrais
je voudrais vous poser la question. Est-ce que alors c'était de la faute de l'arbitre? Parce qu'on a aussi beaucoup entendu ça. L'entraîneur marseillais et le directeur sportif, chacun à leur tour, ont mis en cause l'arbitrage. Alors, on va d'abord écouter le plus calme, André Villas-Boas.
C'est des choses à éviter dans le monde du foot. Ça peut passer, c'est un classique, c'est dur. Mais bon, j'espère que ça ne ne mis pas un point noir sur cette performance qui était historique. Je pense que bon, Clavit a perdu un peu la tête parce que c'est pas normal. Tu peux être un peu plus agressif avec les jeunes pour contrôler les joueurs. On a subi beaucoup de fautes agressives et je pense que Clavit peut être un peu plus dur.
Alors, il estime qu'ils ont subi beaucoup de fautes. Écoutons Leonardo, vous en parliez, Bruno, c'est pour ça que je voulais qu'on l'écoute maintenant. Alors, Leonardo, pendant des minutes et des minutes, ne parle pas du match et vraiment a tout un vocabulaire de rage, hein, comme ces derniers temps d'ailleurs, hein, ça rejoint ce que vous dites, Habib, contre la Ligue 1. Et écoutons ce qu'il dit là contre l'arbitrage.
Je pense qu'un match comme ça, si tu as deux arbitres qui sont dans l'élite de football, que c'est Turpin et Bouquet, je pense qu'ils devaient être là. Que là, peut-être, ils sont plus préparés. L'arbitre, il était malheureusement complètement hors de contrôle du match.
Je crois qu'il aurait bien voulu choisir les arbitres ce match.
Non, mais...
Et Leonardo, en plus, a critiqué le fait qu'il y ait un classico à la troisième journée.
Bon, alors ça, on sait pourquoi. C'est pour aider le lancement de la chaîne Media Pro. Bon, soit c'est une raison valable, mais qui n'est pas déclarée, disons.
La chaîne Téléfoot qui retransmissait.
Oui, Media Pro.
Mettait en France le match. Hein,
c'est ça. Mais c'était pour les aider. Hein,
bon. Oui, mais ça, je trouve que c'est pas...
Mais en c'est, encore une fois, ça se fait pas.
En Angleterre, il y a déjà des sommets.
Oui,
et en plus, il n'est pas désigné aujourd'hui que Marseille sera le dauphin de Paris.
Non, mais je suis pas en train de le justifier. Après, sur l'arbitrage, moi, je trouve que l'arbitre a trop vite sifflé des cartons pour des fautes anodines et au contraire oublié d'en mettre sur des fautes graves. Il a pas gradué son arbitrage et au contraire, à un moment, quand on voit qu'un match dégénère comme ça, que les joueurs sont en train d'en faire qu'à leur tête, on sort un carton rouge pour calmer tout le monde, ce qu'il n'a pas fait non plus. Ça aurait pu justifier.
Moi, je pense que c'est pas ça qui lui a manqué. Ce qui lui a manqué dans, ce qui lui a manqué dans
cette. Peut-être s'il expulse Paredes dès le début, ça.
Non, je pense que ce qui lui manque,
c'est les deux capitaines.
Voilà,
il peut appeler les deux capitaines, leur faire leur marque. Il peut appeler les deux entraîneurs aussi, hein, avec les deux capitaines.
Cet arbitre, je l'avais vu arbitrer il y a deux semaines, Strasbourg-Nice. Et pareil, il avait, sur un match relativement calme, il avait mis 8 cartons. Et on a l'impression que c'est un arbitre qui, au lieu de discuter ou de réprimander, met un carton. Ça lui tient lieu
pourtant,
de dialogue. C'est
on
quand même un peu gênant.
On a parlé un moment avec Verratti.
Je pense que comme l'a dit Bruno, il doit appeler les deux capitaines. Il fait une erreur sur le tacle de Pape Gay. Il lui met carton jaune.
Il fait plusieurs erreurs. Il oublie
le deuxième but de Marseille.
Alors le deuxième but, en quelque sorte, lui, il y est pour rien.
On lui dit,
il y a hors jeu. Bon, de toute façon, je crois que personne n'a vu le révélateur qu'a vu le VAR.
Il y a sûrement d'autres angles qu'on n'a pas à la télé.
Il n'a pas été aidé par ses collègues qui étaient en haut.
Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est très important pour un arbitre, c'est ce qu'il dégage.
Voilà. Et on
ne se rend pas compte, mais vous regardiez à l'époque les Howard Webb, tous ces grands arbitres.
Atkinson,
on parle même de Colina par exemple. C'était des gens qui en imposaient.
Bien sûr.
Lui, Jérôme Brizard, quand vous le voyez,
Skoumina
c'est pas
aussi,
méchant,
il en impose.
Mais c'est pas, il en impose pas. C'est pas charismatique. On peut, par exemple, taper sur Turpin, Turpin, à sa façon, il a du charisme. Il énerve, mais il a cette expérience et il a cette autorité naturelle. Voilà.
Effectivement.
En tout cas, on connaîtra les conséquences de tous ces gestes et de tous ces cartons dès mercredi, hein, parce que c'est la commission de discipline qui se réunira. Alors, bien sûr, il y a des critères, mais on commence déjà à dire que la LFP étant passée sous pavillon d'un nouveau président qui s'appelle Vincent Labrune, qui est l'ancien président de Marseille, ça peut influer sur les...
Je pense pas, parce qu'en fait, je trouve que dans ce qui s'est passé, regarde bien, pour moi, c'est même sanction pour Amavi, même sanction pour Kurzawa.
Mm-hmm.
C'est la même chose, hein, deux coups de pied, donc voilà.
Ouais.
Neymar, c'est normal qu'il prenne rouge, mais c'est pas non plus un coup de poing, c'est une petite gifle vers la tête. Par contre, il faudra après voir ce qui s'est passé entre les deux au niveau des mots. Moi, je parle juste du geste de Neymar.
Mm-hmm.
Quant à Paredes et Benedetto, je pense que Paredes, ça doit être un ton au-dessus de Benedetto.
Il a commencé.
Le plus grave, c'est Amavi et Kurzawa.
Pour moi, le plus grave, c'est Amavi et Kurzawa. Si, je pense qu'ils vont prendre 4 ou 5.
Ouais, facilement.
Ouais, on verra ça donc dans la semaine. Et puis, on a noté aussi hein, les propos de la ministre des Sports qui s'en est pris au message et aux banderoles dont nous parlait il y a peu, Hugo. Justement, on va sur le dénouement. Alors, dans la ville portuaire, évidemment, hier soir, c'était quand même la fiesta.
Ça fait 10 ans, on était très petits.
Marseille, Paris. Marseille, Paris. Marseille, Paris. Marseille jusqu'à la mort.
Provocateur, hein, les joueurs de l'OM, non, Habib, ils ont dansé hier soir quand même sur la pelouse.
Oui, bah, en même temps, ça fait 10 ans, donc ils ont le droit de fêter aussi leur victoire, et les supporters aussi. Après, il faut espérer que cette image, on ne la voit pas tous les ans, parce que ça voudrait dire qu'il se passe à chaque fois 10 ans entre une victoire de l'Olympique de Marseille. Il faut espérer qu'à un moment donné, ça se normalise et qu'une victoire contre le PSG ne mette pas les gens dans la rue comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions.
En tout cas, près du Vieux-Port, le quotidien La Provence a retenu sur sa une, eh bien, un seul mot. L'exploit, c'est marqué en grosses lettres, avec Florian Thauvin, bien sûr, en train d'ajuster le gardien adverse. Alors la joie, vous l'avez entendu, elle est allée aussi jusqu'à Dakar, parce qu'on a entendu tout à l'heure un des supporters avec un instrument, le tama, et qui était là et qui dit « Babacar Fall hein, m'a aidé à décoder tout ça », et il dit notamment « Marseille jusqu'à la mort ». Donc voilà, il y a des supporters. Hugo, est-ce que vous ne retenez que la victoire et surtout la fin d'une disette pour Marseille de 9 ans d'attente?
Ah bah oui, forcément, c'est le grand événement de la soirée, il est quand même là, au-delà des incidents, il est sur la fin de cette disette qui était quand même un petit peu inexplicable pour l'Olympique de Marseille. Certes, évidemment, en 2011, le PSG change de dimension avec l'arrivée des investisseurs qatariens, le PSG accapare pratiquement tous les titres nationaux, néanmoins, dans ces 10 dernières années, d'autres équipes sont parvenues à battre le PSG, y compris au Parc des Princes. L'OM n'y parvenait pas, et quelque part, c'était un contresens. Et là, les Marseillais, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, au-delà de la mauvaise agressivité qui a pu être mise dans cette rencontre par les joueurs des deux camps, ils ont aussi mis la bonne agressivité. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont plutôt défendu bas, ils ont laissé le PSG multiplier les centres, 27 centres, qui finalement n'ont pas donné grand chose, même s'il y a eu de belles occasions, et il a fallu un très bon Steve Mandanda, un excellent Steve Mandanda pour tenir la baraque. Mais ils ont aussi mis la bonne agressivité, celle de l'impact, celle de l'intensité, les Marseillais, plus d'interceptions que les Parisiens sur ce match, autant de tacles, pratiquement autant de duels gagnés. Voilà, c'est aussi la preuve que Marseille a répondu présent avec ses armes, avec cette solidité, avec ce bloc qu'a su construire André Villas-Boas depuis plus d'un an.
Et surtout, ils ont suivi aussi le schéma tactique qui avait été mis au point par l'entraîneur, c'est ce qu'a dit Valentin Rongier.
Aujourd'hui, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire rester en bloc bas. Parce qu'on se souvient l'année dernière, voilà, on a essayé de les presser haut, ça n'a pas fonctionné. Donc on a complètement changé notre tactique. Voilà, c'était peut-être pas du très beau football pour les spectateurs avec tout ce qui s'est passé, mais en tout cas, nous, le contrat est rempli.
Habib Bey, c'était finalement tirer les leçons de ce qui avait été l'année dernière. On s'en souvient de ce 4-0 catastrophique pour Marseille. Hein. Et surtout, ne pas avoir peur de gagner, en fait. Parce que c'est souvent ça qu'on dit face au Paris Saint-Germain. Les adversaires ont peur d'y aller, quoi.
Bah déjà, ils se sont pas couchés. Ça, c'est une bonne chose. Ils ont répondu présent dans l'impact. Ils ont fait face à ces Parisiens dans la frustration, dans la provocation également. Ça fait partie des matchs de football. Hein. Il y a un petit peu de vice à avoir sans dépasser les limites. Le plan de jeu a été respecté. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Villas-Boas a appris de ses erreurs. Il n'a pas mis son bloc équipe, son bloc défensif à 50 mètres de son but. Même s'il savait qu'en face, il n'y avait pas Mbappé. Mais malgré tout, ça aurait été peut-être un problème pour les Marseillais. Ils ont clairement laissé la première relance. Et puis ils ont mis leur 4-1-4-1 en place. Très souvent l'attaquant n'était pas attaquant, il était dans le milieu de terrain pour travailler aux côtés de ses partenaires. Et puis ils ont géré en fin de compte l'intérieur du jeu. Ils ont eu une grosse compacité. Et puis ils ont en quelque sorte laissé les côtés à ces Parisiens avec beaucoup de confiance sur Alvaro González et sur Tchaïta Tsar pour les duels aériens. Il y a eu quelques alertes, mais c'est normal, c'est le Paris Saint-Germain en face. Ouais. Et puis surtout, Hugo l'a dit, c'est que lorsque vous gagnez les duels, comme ils l'ont fait. Alors ils ont eu un début de match difficile, mais après ils ont récupéré les seconds ballons, ils ont mis un petit peu plus d'impact, ils ont sali le match. C'est aussi ce qu'il faut faire, c'est que ils ont à un moment donné sali un petit peu ce match et ils ont un petit peu fait dégoupiller les Parisiens. Donc il y a eu tout dans ce match. Alors c'est pas un beau match de football, hein. Attention, hein, techniquement c'était très moyen.
Mais c'est souvent ça, ce genre de rendez-vous.
Mais il y a beaucoup de points positifs.
Mais je pense que
le
Marseille doit passer par là pour ensuite gagner de la confiance et aborder ces matchs-là avec un petit peu plus de qualité dans le jeu. Et ça, ce que dit Florent Thauvin, c'est qu'il faudra qu'il s'améliore sur la transition et sur la qualité de jeu.
Mandanda, il sauve les meubles assez vite devant Verratti. Il a une horizontale, une parade extraordinaire.
Verratti,
on est au tout
important.
Début de match et clairement, bon, le fait est que Marco Verratti ne marque jamais, donc c'était peut-être un peu plus facile
ouais,
devant
lui.
Mais
c'est pas ce que je voulais dire. Mais
non, mais ce que je veux dire, c'est que sans cet arrêt, le plan marseillais, il peut vite tomber à l'eau. Un petit peu comme l'an passé, même si le plan était différent, mais on n'avait pas eu un mandat impérial, ça avait très vite cédé. Et du coup, on était reparti au vestiaire avec 4 buts dans les bagages du côté de Marseille. Alors là, heureusement qu'il y a eu un très très grand mandat, notamment en début de match, pour permettre aux Parisiens de douter et aux Marseillais de prendre de plus en plus de confiance.
Patrick Julien, est-ce que vous avez eu le sentiment pratiquement d'un match équilibré par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire Marseille qui arrivait va-t-en-guerre, les autres qui étaient peut-être un peu sur la défensive après avoir perdu à Lens?
Non, moi j'ai l'impression que c'est Villas-Boas qui a dicté le tempo tactique de la partie. En fait, Habib est charitable, il parle de 4-1-4-1, moi je parle de 4-6-0, c'est-à-dire que l'OM jouait sans attaquant, avec deux lignes de trois au milieu, qui faisait un double rideau, et avec trois joueurs un peu plus pour jouer les coups quand l'OM pouvait récupérer quelques ballons, ce qu'elle a souvent fait par Camara notamment, qui a été qui a eu beaucoup d'abattage. Et le PSG a mis en place à peu près la même tactique, c'est-à-dire il n'y avait pas d'avant-centre dans cette équipe. Il n'y avait pas d'avant-centre. Neymar allait souvent dans le cœur du jeu pour remonter des ballons, parce que Di Maria était pas très en jambes. Sarabia était plutôt sur un côté. Et on avait enfin un excellent centreur, Florenzi, qui m'a épaté, moi, par sa qualité de centre. Et personne pour reprendre ses ballons. Et la seule occasion nette, vraiment, c'est Verratti, qui se retrouve un peu par hasard dans la surface où il n'est pas souvent. Parce qu'il y a une carence. Mais
ça, tu peux pas en vouloir au PSG, parce qu'ils n'ont pas ce joueur-là. Sur le banc, ils l'ont pas.
Ils l'ont pas.
Le seul joueur qu'ils avaient sur le banc aujourd'hui, c'était Draxler. Ils avaient le jeune Kalimuendo qui aurait pu jouer attaquant. Donc,
peut-être.
On peut pas considérer qu'aujourd'hui, ils ont fait une erreur. Ils n'avaient pas Icardi sur le banc. Ils n'avaient pas d'autres attaquants
sur le
banc.
Non, mais ça interroge sur la constitution de l'effectif, quand même.
C'est autre chose.
On va y venir après. Restons un tout petit peu encore sur Marseille. Les meilleurs Marseillais. Alors, on vient de le dire, il y a eu Steve Mandanda qui a eu un rôle capital, Bruno Constant, mais il y a eu aussi quand même Florian Thauvin qui revenait d'une longue blessure, pratiquement d'une année blanche. C'est lui qui marque le but. Il avait déjà marqué en début de championnat. C'est son 80e but sous les couleurs de l'OM. Payet même qui fait la passe décisive. On avait l'impression que les Marseillais sur lesquels les plus connus, enfin les plus fameux,
ils ont répondu présent,
étaient là hier.
Et c'est les joueurs surtout. Il y avait des questions avant cette saison. Ouais. Déjà en réponse à la saison passée, une très bonne, excellente saison, au-delà des espérances. Thauvin qui manque toute la saison. On se demandait si Mandanda, avec un an de plus, allait enchaîner la bonne saison qu'il avait faite l'année dernière. Il avait été extraordinaire la saison passée.
Il est parti sur les mêmes bases,
effectivement. Ce match, il tient aussi à lui et beaucoup à lui. Thauvin, depuis le début, il est ultra décisif. Et c'est ce qu'on veut de lui. Il est peut-être pas 100% physiquement, mais en tout cas,
il s'est montré décisif sur un gros match, parce qu'on lui reprochait de ne l'être que sur les matchs
marqués dans le fameux 2-2 là.
Mais il assume son statut. C'est la recrue de l'été à l'OM. Il a pas joué la saison dernière. Mais toutes les questions qu'on pouvait se poser sur l'OM et même sur Villas-Boas, est-ce qu'il serait capable de relancer la machine une saison supplémentaire avec les mêmes joueurs, peu de renforts? Et ben, chaque fois, on a les réponses parce que c'est cohérent, parce qu'il y a un vrai plan, qui est une ligne directrice qui est claire. Et moi, ce que fait AVB pour l'instant, c'est plutôt encourageant.
Pour moi, c'est pas eux les hommes du match. Tout le monde a oublié la performance de Boubacar Camara, est exceptionnelle.
Je l'ai signalé quand même.
Je sais, mais c'est déjà, on a beaucoup parlé de Mandanda, beaucoup parlé de Thauvin.
Rongier et Camara, c'est pratiquement les deux meilleurs.
Boubacar Camara hier.
Non, mais un exploit, ça se joue quand même dans les deux zones.
Moi, ce que j'ai apprécié.
Oui, bien sûr. Après, moi, je considère pas que c'est un exploit. Mais encore une fois.
Non, le mot exploit, face à ce PSG,
t'as pas gagné depuis 10 ans.
Oui, mais non, un exploit, il faut pas galvauder le mot exploit. Ça a une vraie dimension, le mot exploit.
L'OM est quand même deuxième.
C'est une immense performance au vu de ce qui
J'imagine à vivre que l'exploit, c'est d'avoir interrompu enfin.
Oui.
L'exploit, l'OM a terminé deuxième la saison dernière.
J'estime qu'aujourd'hui, avec l'équipe qu'ils ont, l'équipe qui est en face, bon, je ne considère pas que c'est un exploit dans le sens où Paris Saint-Germain c'est une grosse performance.
Il y avait quand même 9 des 10 joueurs de champ qui étaient des titulaires habituels.
Oui, bien sûr, mais qui reviennent de 7 jours de vacances et 7 jours de Covid. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas faire 10 miracles non plus physiquement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu. Et là, Bruno a raison, c'est qu'ils ont été bons dans les zones de vérité. Ils ont Mandanda, qui est très très bon et qui sauve son équipe.
Et
ils ont Florian Thauvin qui marque sur la petite action qu'ils ont. Alors après, ils peuvent gagner 2-0, ils doivent gagner 2-0 éventuellement ce match. Oui. Donc, ils auraient été très bons d'ailleurs dans les zones de vérité, parce que c'était encore une seule action qu'ils avaient eue sur la frappe de Thauvin et le but de Benedetto.
Mais moi, c'est surtout
qui vont disputer la Ligue des Champions cette saison, du coup, ça peut être.
C'est un joueur qui m'a épaté.
Un bon début.
Dans cette optique-là, justement, on attend que ce soit lui le patron de l'équipe, c'est Dimitri Payet. Et moi, je trouvais que c'était un joueur brillant, mais qui sortait parfois des matchs et qui allait pas toujours au charbon. Et là, je l'ai trouvé vraiment très impliqué. Il est redescendu souvent très bas pour prêter main forte à ses défenseurs.
C'est pour ça que les gens qui disent qu'il peut pas le faire, c'est impossible. Bah, c'est-à-dire qu'il l'a fait hier.
J'attends. Le faire. Est-ce qu'il peut le faire sur la durée? C'est une autre question. Il doit le faire. Mais en tout cas, hier, il a été, il a répondu présent, mais de A à Z.
L'OM était là. Alors, côté parisien, évidemment, c'était plutôt la soupe à la grimace. Il y avait des supporters, puisqu'on a droit à 5000 personnes dans l'enceinte d'un stade, même s'il y a 40 000 places. Et écoutez certains supporters, évidemment pas très contents, au micro de Sarah Lou Bakouche.
Marseille, c'est un match très important. Je suis très choqué, c'est décevant.
Je suis un grand supporter de Paris. Je resterai toujours supporter. Je commence à être un peu blasé de ces défaites-là.
C'est le début, c'est pas grave, c'est un faux départ.
Alors, on a deux personnes dans ce studio qui étaient au stade, Habib et Hugo. Hugo, ces supporters, on les entendait, ils étaient très présents, parce qu'il y a certains stades où on a l'impression qu'ils sont peu, mais qu'on les entend beaucoup. Là, quel a été votre sentiment?
Alors, les ultras n'étaient pas là, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ils ont plutôt animé bien des banderoles l'avant-match. Néanmoins, il y avait quand même une certaine ambiance, oui, dans le stade, dans le Parc des Princes, sachant qu'il n'y avait pas vraiment 5000 supporters, mais plutôt 4000 spectateurs. Oui. Le reste des places, c'était plutôt pour les gens qui travaillent autour de l'organisation de ce match. Et finalement, ces 4000 personnes, elles ont suffi à mettre une certaine ambiance. On parlait tout à l'heure du taquet de Paredes sur Payet au moment de son entrée en jeu. Bah, ça a fait se lever quelques supporters qui étaient contents de voir Paredes, un joueur qu'ils apprécient pour sa Grinta, voilà, donner une petite leçon à l'ennemi numéro un côté marseillais, Dimitri Payet. On les a vus siffler, on les a entendus plutôt siffler la sortie du même Dimitri Payet. On les a vus se lever lorsqu'il y a eu un but refusé pour Di Maria. On les a vus applaudir lorsqu'il y avait des cartons jaunes distribués du côté de Marseille. Donc il y avait quand même une certaine ambiance à l'image un petit peu de ce match qui nous a permis de raviver un petit peu la flamme du classique. Elle s'est également ravivée peut-être dans les tribunes malgré la faible affluence pour les raisons que l'on sait.
À Vibay, il n'y avait pas beaucoup de Marseillais, sauf vous.
Il y avait moi. Il y avait moi qui devais être impartial pendant 90 minutes.
Il y avait quelques Marseillais de Paris cachés.
Il y avait quelques Marseillais, si. Il y avait il y avait une petite tribune de Marseillais. Je pense que c'était des gens qui avaient été triés sur le volet par le club, bien sûr. Mais c'est vrai, Hugo a raison. Il y avait une petite ambiance. On est déjà content de voir qu'il y ait 5000 personnes
aujourd'hui
dans un stade.
On en est quand même. On se satisfait d'avoir 4000 personnes qui font un peu de bruit. Avant, on avait des stades de 45 000 places. C'est horrible.
Ça reste
plus naturel que le bruit fait par les DJ, aussi talentueux soit-il.
Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir 45 000 personnes dans un stade pour avoir un pugilat en fin de match, un match qui part complètement en vrille. Donc là-dessus, c'est quand même...
En tout cas, faux départ, nous disait tout à l'heure un des supporters. Alors oui, évidemment, le PSG est à la 18e place de Ligue 1, mais oui, vous avez bien entendu. Alors, ils ont quand même un match en retard, mais c'est deux défaites en deux matchs, zéro but inscrit. Et en plus, alors si on remonte dans les archives, c'est ce que font nos amis d'Opta, là, qui aiment bien faire des statistiques, il faut remonter à la saison de 1984-85 pour trouver un si mauvais début de saison, ou avant encore avec zéro but inscrit, et surtout il y a eu deux défaites de suite, plus celle de la finale quand même de Ligue des Champions. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Thomas Tuchel, lui, il avait aimé la prestation de ses joueurs à Lens, et là il est encore content.
Je suis absolument très très content. Et j'ai vu un grand match de nous, de circonstances comme ça, une performance individuelle et comme équipe, c'était très très bien.
C'était très très bien. L'année très, dernière, très bien. On se souvient qu'ils avaient perdu deux matchs aussi en début de saison. Hein. Il y avait eu Reims au Parc et Rennes à Rennes. Vous le citiez tout à l'heure, Thomas Tuchel.
J'aime bien le citer, Thomas Tuchel.
Non, mais ça vous a impacté et ça nous a tous quand même surpris, ce genre de déclaration où il dit « je suis très content, performance individuelle, équipe très bien ».
Non, mais c'est ce qu'on disait avec Habib avant l'émission. Autant Villas-Boas a été excellent dans sa communication. Avec les références historiques, avec la petite blague,
le truc sur les
charges avec
Tourelle, c'est moyen quoi.
Si, c'était bien, ça passe, c'est très bien. Autant Tourelle, il est catastrophique. Alors, il veut essayer de nous faire croire que dans ce marasme, il y a eu des petits points positifs, que dans le jeu ils ont dominé. Mais non, on a tous vu le match. C'est forcément un peu inquiétant, mais on sait aussi qu'il y a un contexte particulier.
Le seul point positif,
ça empêchera pas le PSG d'être champion à la fin de la saison. parce que je pense qu'il y aura peu de suspense là-dessus. Mais par contre, moi, ça pose toujours les mêmes questions sur Tourelle.
Sauf s'il y a beaucoup de
cartons et qu'on
rouges,
s'était déjà posé, je me souviens, on était avec Habib le lendemain de la finale de Ligue des Champions sur le visage affiché par les Parisiens et ce manque de ligne directrice dans le jeu. Ben, on la retrouve. Alors, même s'ils sont pas à 100%, ça, on est tous d'accord. Mais malgré tout, on a du mal à voir ce qu'il essaie de construire. Et ça repose toujours sur les mêmes idées.
Il a tendance à attendre quand même l'exploit de Neymar. Ouais, j'ai l'impression que cette équipe, si on donne le ballon à Neymar, tout le monde regarde autour qu'est-ce qui se passe et éventuellement Di Maria va aussi faire quelque chose. Hier, par exemple, le manque de variété dans le jeu de son équipe, il est aussi responsable de ça. Après, sur la communication, on est très... On voit bien que c'est de la com. Hein. Il est en train de dire mon équipe.
Il y a des messages cachés.
Mais en même temps, tout le monde, à l'image de Leonardo qui vient et qui fait un monologue de 10 minutes et qui cartonne à tout va, il dit que c'est lui. Si lui il arrive et qu'il fait la même chose, les gens.
Habib, toi, quand tu seras entraîneur, tu feras ce genre de com après une défaite comme
Je pense pas parce que c'est pas ma personnalité, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais devoir m'adapter dans le milieu dans lequel j'évolue.
Quel est le message de Tourelle là?
Le message de Tourelle, c'est de dire de toute façon, mon équipe n'est pas prête. On n'a pas réglé les problèmes qu'on doit régler. J'ai besoin de renfort.
Okay.
Je pense qu'on a pris des décisions à l'intérieur du club qui n'étaient pas en accord avec les siennes.
Habib, est-ce que c'était une défaite encourageante?
Non, surtout pas.
Il n'y a jamais de défaite encourageante. Habib nous le dit suffisamment.
Je connais bien Habib, c'était Moi, je voudrais vous demander aussi, en plus de tout ça, Patrick, sur la feuille de match, quand on la regarde, alors certes, il manque des joueurs énormes, et c'est Navas, ensuite Marquinhos, et évidemment Mbappé, le complice de Neymar. Mais quand même, c'est comme à Lens, il manquait...
Très pauvre.
Mais il y a quand même l'essentiel, c'est des joueurs professionnels titulaires de cette équipe.
Les joueurs, c'est une chose, les joueurs sont là, et même si certains étaient un peu patraques ou à court de forme, c'est quand même des joueurs de classe mondiale, donc... Un Di Maria à court de forme, ça reste un bon footballeur et on sait que Di Maria en général ne se loupe pas dans les gros matchs. Ce qui est terrible, c'est que l'équipe, effectivement, Habib a raison, Tourelle laisse ses joueurs en autogestion, plus ou moins. Alors ça a des bons côtés, puisqu'il s'est créé une certaine osmose entre eux, un esprit de groupe qui n'existait peut-être pas il y a 2 ou 3 ans. Là, il y a une vraie complicité entre les joueurs, même en dehors du terrain. Et ça, c'est positif.
Et même sur le terrain.
Ça aide à construire quelque chose sportivement, mais ça ne suffit pas. Et on n'a pas... les problèmes se posent match après match. Ils ne sont pas résolus. Il y a un milieu qui manque de créativité et ce qui force les offensives souvent à décrocher très bas. Et on a commencé, par contre, c'est pour moi le seul point positif, à voir enfin des latéraux performants.
Voilà.
Puisque les deux meilleurs, selon moi, hier soir au PSG, c'est Bernat et Florenzi, alors que c'était plutôt les maillons faibles du schéma parisien, les côtés. Et là, c'est pas mal à ce niveau-là. Donc ça, c'est un motif d'espoir et de satisfaction.
Bruno Constant, justement, Florenzi, quand même, il avait passé sa visite médicale vendredi, tout de suite intégré, tout de suite mis sur le terrain, et il a fait du bien à cette équipe hier.
Oui, j'imagine que c'était entraîné avant avec son club précédent, ou qu'il était déjà un peu...
Oui, il vient de
l'AS
Roma, 29 ans, international italien.
Il avait fini la saison avec Valence.
Oui, c'est encourageant. Oui. Après, moi, j'attends quand même de le voir dans d'autres matchs, dans d'autres contextes, où il y aura une adversité sur son côté.
Parce qu'il
y a pas, au final, il n'y a pas beaucoup défendu.
Mais les dangers venaient
beaucoup
souvent de son côté, quand même.
Oui, non, offensivement.
Oui.
Offensivement.
Oui, oui.
Mais moi, j'aime bien quand on parle des latéraux plutôt de leur travail défensif d'abord, parce que c'est là où ils sont testés, surtout.
Ils vont chercher Florenzi parce que ça correspond au projet de jeu du Paris Saint-Germain.
Est-ce que c'est lui qui va le chercher ou est-ce que c'est lui ou Leonardo?
Mais en même temps, c'est un coup à la Bernat.
C'est une bonne affaire parce que c'est un prêt, en fait.
Il n'y a pas de transfert.
Voilà.
Donc pas de coup pour le Paris Saint-Germain.
Il faut encore mettre de l'argent sur d'autres postes.
Faut voir sur la durée.
Moi, je trouve qu'il a une superbe qualité de centre.
Oui.
Il peut centrer dans toutes les positions. Il n'a pas besoin de déborder pour ça. Il arrive à trouver des angles de centre.
Une fois, il centre
pas facile,
en sachant qu'il n'y a personne pour
mais
le reprendre.
Mais le problème est le suivant. Est-ce que le PSG a un joueur de tête ou un joueur de surface assez fort? Est-ce qu'Icardi peut l'être en pleine forme? Peut-être, mais pour l'instant, il est très loin de ça.
Il peut aussi changer sa façon de centrer.
Voilà.
Habib, pour terminer.
Non, je pense que le vrai problème du Paris Saint-Germain, c'est de muer éventuellement un de leurs milieux en créateur. Je pense que, par exemple, Verratti peut être ça. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que Verratti doit être celui qui gratte le ballon. Peut-être qu'à un moment donné, il faut lui donner une autre fonction, parce que ça fait 8 ans qu'il est là et toujours le même joueur, il n'a pas évolué. Parce que vraiment, Herrera, Gueye, Verratti, s'il n'y en a pas un des trois qui décide de créer pour les trois autres qui sont devant, ça va être compliqué. C'est-à-dire qu'on va demander en fait aux attaquants de créer. Donc c'est trouver cette alchimie. Maintenant, il faut pas être inquiet. Moi, je trouve que le PSG est un petit peu là en stress, alors qu'il n'y a pas
c'est,
pas
c'est ça qui est étonnant.
Voilà. Ouais,
c'est
étonnant. En tout cas, les deux équipes rejoueront cette semaine. Le PSG reçoit Metz mercredi soir avant d'aller à Nice, jouer au cours du week-end. Et l'OM recevra Saint-Etienne. C'est des matchs en retard hein, pour les deux.
Dimanche à 13h à Nice. Hein. Il faudra pas faire la grasse matinée.
Dimanche, PSG, Nice-PSG, oui. Mais l'OM recevra Saint-Etienne, ce sera jeudi soir. Et ensuite, on aura un OM-Lille. Allez, un petit tour par la Grande-Bretagne.
Welcome to season 8 of the Premier League.
It's Liverpool 1, Leeds 0. Leeds United hit back within 8 minutes of going behind. It's happened again, and it's Liverpool 2, Leeds 2 in this extraordinary game of football at Anfield. What a game we have here at Anfield. Toe to toe.
Mohamed Salah for the hat-trick scores. 3 for Salah, 4 for Liverpool. What a fabulous feast of attacking football to start the season at Anfield.
Quelle pub pour le foot anglais et quelle entrée en lice pour les champions d'Angleterre. Liverpool recevait donc samedi après-midi Leeds et le face-à-face Klopp-Bielsa a tenu ses promesses de jeu un peu fou. En tout cas, c'est ce dont on avait parlé dans Radio Foot, dans le Café des Sports. Alors bien sûr, certains disent oui, mais il y a eu des fautes en défense. Oui, évidemment, avec 7 buts, il y a forcément eu des fautes. Mais c'est quand même une victoire dans les dernières secondes avec un hat-trick finalement de Mo Salah qui aura marqué deux pénalties. Vous avez apprécié ce match, j'imagine,
comme je pense, que j'espère, enfin, comme tous les téléspectateurs, les observateurs, parce que c'est juste extraordinaire d'avoir des matchs comme ça, de pouvoir parler de football, de pouvoir parler d'entraîneurs qui mettent en place un vrai jeu offensif. Beaucoup de déséquilibre, évidemment, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'erreurs défensives. Et honnêtement, la manière de défendre sur la plupart des buts, ça touche parfois au catastrophisme. Mais c'est pas grave, parce que là, c'était assumé. Et que c'était quand même le match entre le champion d'Angleterre en titre et le champion de deuxième division anglaise. Donc on a quand même deux équipes qui étaient donc à la tête de ces deux divisions, qui pratiquent un football mais magnifique, offensif et magnifique.
Habib.
Et surtout, pardon, même si Leeds perd ce match, aujourd'hui celui qui a marqué les esprits, c'est Marcelo Bielsa.
Oui.
Et ça, c'est quand même extraordinaire.
Habib.
Oui, je suis pas sûr que ça soit assumé, les erreurs défensives, le déséquilibre. Oui, on sait que c'est le déséquilibre. Oui, mais par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que on a deux entraîneurs qui prônent le football offensif, qui sont dans l'objectif de marquer un but plus que l'adversaire. Ils sont pas dans l'objectif de gagner 1-0, même si Liverpool a gagné beaucoup de ses matchs l'année dernière avec un seul but d'écart. Je trouve formidable en fait déjà de voir Bielsa avec cette équipe venir concurrencer Liverpool. C'est à vraiment, il faut s'en inspirer parce que c'est l'ambition de jeu, moi, qui m'intéresse. L'ambition de jeu, lorsqu'on voit qu'il a une équipe où il a apporté quelques joueurs, mais il a des joueurs de D2, de Championship, un Bamford, qui marque.
C'est ça, je vais te couper juste à Bible, une petite parenthèse. On parlait de Tourelle, et des fois, on est dur avec Tourelle, mais aussi on est frustré de ce qu'il propose avec la somme de talent qu'il a dans son effectif. Quand on voit un Marcelo Bielsa avec une équipe de Championship, de D2 anglaise, qui fait jeu égal avec Liverpool, qui était champion d'Europe il y a un an.
Et puis, les buts sont de qualité. Le premier but, quand on voit cette magnifique transversale, l'enchaînement, il est parfait. Et ce que j'ai aimé surtout, moi, c'est pas la conférence d'après-match, mais lorsqu'on interviewe Bielsa, il dit « Mon équipe n'a pas été bonne dans les 20 derniers mètres, sur le plan offensif. » Il dit avant, sur le plan offensif, il dit « On a eu des situations. » Donc, il est dans la logique de gagner ce match. Il n'est pas dans la logique de dire « Ah, on a fait des erreurs derrière, donc on perd 4-3. » Il dit, dans un premier temps, on a eu des situations de jeu qu'on a très mal négociées devant. En fait, il est dans cette... Et moi, je trouve que ça me plaît. L'idée, elle me plaît. Pourquoi ? Parce que
lui, il pensait qu'il pouvait gagner, en
voilà.
plus.
Ah, de toute façon, il peut avoir tous les regrets du monde s'il décide de gérer, de défendre contre cette équipe de Liverpool. Là, il sait que son championnat, lui, de toute façon, c'est pas pour concurrencer Liverpool. Il sait qu'il peut les concurrencer sur 90 minutes. Sur un championnat, il est lucide de se dire « Bon, je pense... » Mais par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on peut faire le pari aujourd'hui, il sera dans les 5 meilleures attaques de Premier League, je pense. Et pourtant, il n'a pas la matière des autres. L'année dernière, il est deuxième meilleure attaque de Championship avec 77 buts. Et je suis persuadé qu'il finira peut-être entre 8 et 12 parce qu'à un moment donné, il va être limité par rapport à son effectif. Mais je suis persuadé que cette équipe va marquer beaucoup de buts.
Alors, on a vu Jürgen Klopp à la fin du match, en le prenant l'accolade, là, Bielsa très emprunté et Klopp extrêmement expansif. Et on voyait bien un coach allemand heureux.
J'ai dit à mes joueurs avant le match que nous devrons lutter contre Leeds à 100%, car leur façon de jouer est juste inconfortable, pénible. Mais j'adorais l'attitude de mon équipe contre Leeds. Beaucoup de gens disaient « Liverpool affronte Leeds, de retour en première ligue après 16 ans. Liverpool est devenu champion, voyons s'ils sont toujours une équipe prête à se battre. » Et je dois dire qu'ils ne s'arrêtent pas, et j'adore ça. Nous savons que nous devons nous améliorer. Nous allons travailler dessus, mais beaucoup de choses étaient déjà très bonnes.
Klopp, il a même dit « Toute la saison, je vais regarder Leeds. »
Ouais, c'est un bel hommage, c'est un bel hommage. En fait, il y a une différence. Vous avez raison de dire, Habib, que ces deux coachs portés vers l'offensive qui sont dans la philosophie de marquer un but de plus. Mais je pense que Bielsa est un peu plus jusqu'au boutiste que Klopp. C'est formidable. Moi, j'adore ça, les coachs jusqu'au boutiste quand c'est un beau football. Parce que quand c'est des coachs défensifs et qui mettent le bus, là, c'est moins agréable en tant que spectateur. Mais là, en l'occurrence, on s'éclate à regarder ses équipes. Après, le défi est toujours le même pour lui, mais je suis pas certain qu'il va le régler cette saison. C'est de durer, c'est de trouver au fur et à mesure que la saison va avancer et qu'il y aura peut-être de la fatigue, des blessures, d'autres ressorts pour garder le même état d'esprit, à part la débauche d'énergie qui est extraordinaire.
Il y a pas que ça. Alors, Patrick, il y a pas que ça. Ça fait 2 ans qu'il est avec les mêmes joueurs.
Tu peux pas considérer que son équipe, il y a que de la débauche d'énergie.
Non, mais je veux dire, c'est que si la débauche d'énergie disparaît, est-ce qu'il y a d'autres ressorts aussi forts qui peuvent prendre le relais? C'est pour moi la vraie question.
Ouais. Alors
non, mais je trouve que la débauche d'énergie permet en fait à Bielsa d'imposer ce football-là à son équipe. Et que forcément, quand ils ont moins d'énergie, on l'avait vu avec Marseille, son football est moins flamboyant.
Est-ce qu'il y a une deuxième corde à son arc?
À un moment donné, sa philosophie globale, elle est là-dessus. Donc, il pourrait aujourd'hui varier certaines choses dans ce qu'il fait sur un an, parce que se dire, pendant 6 mois, mon équipe va être fatiguée. Et en plus, il a pas une énorme profondeur de banc. Mais quand on voit la façon dont il projette ses joueurs vers l'avant, le fait que ses relayeurs se retrouvent dans la surface de réparation, le troisième but égalisateur où c'est Click qui marque, sur une passe d'Elder Costa, c'est un milieu de terrain qui se projette, qui se retrouve dans la surface de réparation, tu comptes le nombre de joueurs de Leeds qui sont aux avant-postes, il y en a énormément.
Ils attaquent pas.
Donc, il a une philosophie qui demande beaucoup d'énergie. Tu peux pas lui dire, tu peux pas être en fait l'enflammé et l'encenser sur 6 mois et dire attends ce qu'il fait après derrière.
Je suis pas en train de l'encenser. Je dis que simplement j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses équipes et je suis toujours un peu frustré sur la fin en général.
La fin de quoi?
La fin des saisons, c'est-à-dire qu'il a tendance à caler quoi.
Mais il est pas forcément dans la recherche du trophée ou du titre, même s'il était champion de l'année dernière. Mais je suis d'accord, c'est une question qui va se poser en première ligue parce que la densité de première ligue, la densité, l'adversité, le rythme des matchs est plus important qu'en championship. Mais en même temps, le championship c'était un vrai marathon. Il y a 22 équipes, il y a 46 matchs.
C'est sûr.
Il y en aura moins cette saison en première ligue. Après, au-delà de ça, il y a aussi des bons joueurs. Il est en train de sortir des bons joueurs. Calvin Phillips qui fait l'ouverture là dont tu parlais avec le but de Jack Harrison, c'est
déjà qui était international.
Il a déjà été convoqué du coup.
Calvin Phillips était appelé contre le Danemark. C'est surnommé le Pirlo du Yorkshire. C'est un joueur magnifique. Jack Harrison qui marque ce but magnifique où il enrhume Trent Alexander-Arnold et Gomez sur ce but. C'est un gamin qui a été baladé, qui était formé à Manchester United, qui est parti aux États-Unis, qui est revenu, qui a été repéré par Manchester City par Patrick Vieira notamment, qui travaille à New York City. Ils ont tous des petits parcours assez incroyables et il est en train de les développer et de les faire connaître.
Mais d'ailleurs, malheureusement, on n'a pas le temps d'entendre. Il y avait Dimitri Payet et Florian Thauvin avaient témoigné avant le match en racontant ce qu'était Bielsa avec eux et en disant effectivement, il y a un enthousiasme, il y a une débauche d'énergie. Il dit, bon, après nous, quand on a voulu lui dire on fait un peu moins, là, il ne les a pas écoutés. Et c'est vrai que là, c'est son côté jusqu'au boutiste, peut-être.
Il y avait quelque chose, une anecdote là-dessus, c'est que la saison dernière, les joueurs parlaient de Bielsa, notamment dans le documentaire qui a été fait sur leur saison. Et les joueurs disaient, quand on arrivait à la fin de la semaine d'entraînement, on était crevés, on n'avait qu'une hâte, c'était d'arriver au match, parce qu'au match, on court moins. Parce que la semaine d'entraînement est encore pire que les jours de match. C'est incroyable.
Mais il est fascinant, il faut le dire, il est fascinant. Si tout le monde en parle comme ça, Klopp l'a dit, c'est qu'il est fascinant. Il révolutionne le football à sa façon. Un vrai théoricien. Après, en pratique, bien sûr, à un moment donné, son équipe peut
gagner. La petite dose de pragmatisme ferait parfois du bien.
On continuera à suivre les exploits peut-être de Bielsa et de Leeds dans ce championnat d'Angleterre. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Merci à Hugo Moissonnier qui était là aussi avec nous tout à l'heure. À demain.